Joséphine, la cantatrice ou le peuple des souris. Notre cantatrice s'appelle Joséphine. Quiconque ne l'a pas entendue ignore la puissance du chant. Il n'existe personne que son chant ne transporte, ce qui est d'autant plus notable que notre race dans l'ensemble n'aime pas la musique. Le calme et la paix sont la musique que nous préférons. Nous avons une vie difficile, même quand nous avons essayé de nous délivrer de nos soucis quotidiens. Il ne nous est plus possible de nous élever jusqu'à des choses aussi éloignées que la musique du reste de notre vie. Pourtant, nous ne nous en plaignons guère, nous n'allons même pas jusqu'à là. Nous pratiquons une sorte de malice, dont nous avons d'ailleurs assurément le plus pressant besoin, et que nous considérons comme notre qualité principale. Et c'est avec un sourire malicieux que nous avons pris l'habitude de nous consoler de ce que nous n'avons pas. Il en serait ainsi, si jamais, ce qui ne se produira pas, nous devions éprouver un jour la nostalgie du bonheur que procure peut-être la musique. Seule Joséphine constitue une exception. Elle aime la musique, et sait aussi l'exprimer. Elle est la seule. Quand elle ne sera plus, la musique disparaîtra de notre vie. Qui sait pour combien de temps?
I waited and waited with the flowers in my arms for the dream I created. I waited till dreams like my heart were all broken. The flowers were all dead and the words were unspoken. The grief that I knew was beyond all consoling. The beat of my heart was a bell that was tolling. Saddest of Sundays. Then came the Sunday when you came to find me. They brought me to church and I left you behind me. My eyes would not see what I wanted to love me. The earth and the flowers are forever above me. The bell tolled for me and the wind whispered never, but you I have loved and I bless you forever. Last of all Sundays.
Entretien en présence de Talbet Alarmi et de Pascal Maupeu. Nous avons retenu la chorégraphe et danseuse Talbet Alarmi de son mouvement pendant presque une heure, afin de plonger dans les profondeurs qu'elle arpente avec Pascal Maupeu. Son spectacle, Acoustic Pleasure, attire et appelle son auditoire vers une errance sonore. Tantôt, une voix venue d'ailleurs, tantôt, les particules électriques de la guitare. Lors de cet entretien, elle nous fait part de sa curiosité pour la représentation de la sirène. Sirène qui tantôt est aérienne, corps d'oiseau et tête de femme. Tantôt, elle ondule dans les eaux, buste de femme et queue de poisson. Sa forme monstrueuse parce qu'hybride et fluctuante en fait un sujet intrigant pour la danse. En effet, le déplacement de la sirène suscite l'horreur lorsque l'homme découvre son organe moteur et découvre que la verticalité chez la sirène est déviante. Ainsi, la direction choisie par celle-ci se fait de biais, jamais frontale, toujours en courbe. De même que sa voix ne nous parvient que pour nous perdre, nous touche que pour nous prendre. C'est un chant qui met en mouvement le désir, qui n'est que désir ou n'a que le désir pour logique. Il nous vient des profondeurs, des abîmes de la mort, nous parle d'un espace sans foyer. Ainsi la danseuse et le musicien trouvent une secrète intimité entre leur art et cette figure. La danse qui ne s'écrit pas mais s'excrit, toujours dehors. Corps de la danseuse qui ne se laisse pas prendre, ni ne s'institue, et le chant et la guitare électrique, mouvement sonore qui possède la puissance de mobiliser, de bouger le monde, et qui toujours est menacé comme menace de s'en retourner vers un chaos. Tal s'adonne à des imprécations qui viennent comme puissance de désorganisation, et ce, afin de conjurer le chaos et le carnage de l'histoire. Si bien que les monstres sirènes, les souffrances, les opprimés de l'histoire nous reviennent pour hanter, ressurgissent de nos profondeurs enfouies. Ceux à qui la langue a été coupée retraversent le corps de la danseuse pour effectuer leurs tressauts, leurs râles, les secousses insoutenables, leur colère, leur abandon. Et ce qui passe, chant d'amour récusé, chant des morts, tout passe dans ce corps qui s'ouvre aux puissances terrestres.
Alors, nous sommes au Centre chorégraphique national de Tours, en compagnie de Talbet Alarmi
et de Pascal Maupeu.
Bet Alarmi.
Ok, alors.
Non, non, la garde, c'est trop bien.
Alors, Talbet Alarmi est danseuse et chorégraphe. Pascal Maupeu, musicien, guitariste. Vous vous êtes entretenus tous les deux ces derniers temps pour travailler sur une création qui s'intitule Acoustic Pleasure et qui sera jouée à Tours en novembre dans le cadre du festival Transchorégraphie, dans le festival Danse d'Existence, Danse de Résistance, anciennement le festival Transchorégraphique. Alors, Tal. Chorégraphe, mais aussi danseuse pour la compagnie de Bernard de Monté depuis quelques temps. Danseuse aussi auparavant avec Catherine Diverès. Auparavant avec Brigitte Farge. Également chorégraphe, mais pas depuis cette création. Il y avait déjà eu des aventures, Dina, et auparavant Dahlia Bleu.
Oui.
Pascal Maupeu, on vous retrouve aussi dans la création, la dernière création de Bernard Damonté qui s'intitule Apertae, aussi guitariste, fabriqueur de sons. À votre actif, et déjà également quelques albums.
Oui, je crois. Oui, oui.
Vous jouez avec un autre groupe qui s'appelle
Je joue avec beaucoup d'autres groupes, en fait. Il y a Tilbol, qui avait déjà improvisé sur des, avec le centre chorégraphique, justement. On avait fait quelques rencontres assez intéressantes, quoi, à mon sens. Puis après, pour ce qui me concerne, beaucoup d'autres activités, dans la musique improvisée, essentiellement, puis aussi chansons françaises de qualité, on va dire. Et puis un rock, enfin voilà, en gros 7-8 formations différentes, quoi.
Alors on peut peut-être commencer par vous, puisque vous dites une première collaboration avec la CCNT intéressante. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se joue de plus ou qu'est-ce qui se joue de différent? Et comment on passe à un travail avec une matière chorégraphique quand on est guitariste?
Vaste question, intéressante. En fait, moi, j'avais pas du tout. J'avais fait quelques activités un peu transversales auparavant, avant de rencontrer Bernardo Monté et toute la bande, où j'avais fait de la musique pour les pièces de théâtre, où j'avais travaillé avec des comédiens burlesques, des choses comme ça, quoi. Mais jamais avec la danse. Et on a commencé avec notre collaboration avec le centre chorégraphique sur des, on peut dire, des performances, des choses totalement improvisées, en fait. Et du coup, ça a déclenché pas mal d'envie, un autre rapport forcément à la musique et tout. Et puis là, ce qui s'est passé, par exemple avec la création avec Tal, finalement on est parti de quelque chose d'improvisé. Enfin, j'ai l'impression de toute façon que toute création part de l'improvisation, quoi. Et du coup, après on s'est dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on va creuser. Donc c'est vraiment creuser la matière au maximum, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais est-ce que, en tout cas, c'est intéressant, c'est sûr, quoi.
Dans ce spectacle, vous êtes assez appareillé
oui.
avec des machines. Mm-hmm. Ces appareillages, c'est constitué un peu son univers. Mm-hmm. Est-ce qu'on, par exemple, c'est ce genre d'appareillage, quelque chose que, lors de concerts ou avec d'autres groupes, vous utilisez, ou c'est un appareillage là, particulier à la scène, cette question de...
Il y a deux choses, en fait. Il y a sur la création de Bernardo Monté, où je suis vraiment, en tant que guitariste, comme je peux l'être dans d'autres groupes, en fait. C'est-à-dire que je suis, là pour le coup, je suis assis sur un beau cube. Avec toutes mes pédales d'effet, tout ça, et j'ai vraiment une position de guitariste, quoi.
Oui, l'appareillage est presque absent là.
Oh, ouais, voilà. Et tandis que le projet avec Tal, c'est un peu différent, quoi. J'avais envie d'un autre instrument, en fait, ou de développer, d'agrandir cet instrument-là. Et puis ça faisait très longtemps, justement, je voulais utiliser une table de mixage, des sources extérieures, des bandes enregistrées. Par exemple, il y a une espèce de bruit de clapotis d'eau à un moment dans la pièce et tout. Donc, j'avais enregistré comme ça pour un souvenir de vacances, en fait. Puis quand on a parlé avec Tal, je me suis rappelé de cette bande-là, de traiter donc des sons enregistrés et puis effectivement d'être entouré de plusieurs sources sonores, en fait, quoi. Et je me sens bien d'ailleurs dans cet univers-là. J'ai une table devant moi, une table à côté, et j'ai l'impression de d'avoir plusieurs bras ou je sais pas.
D'être en laboratoire.
Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment un laboratoire, quoi.
Et c'est marrant parce qu'au moment où vous dites ça, vous redressez.
Oui, je fais des gestes aussi, je sais que c'est pas très radiophonique, mais bon. C'est finalement la première fois que je peux exploiter cette facette-là ou cette idée-là qui me trotte dans la tête depuis longtemps, quoi.
Amandine.
Dans vos précédentes créations,
la question posée, en fait, le leitmotiv, qui, le moteur, en fait, de, des pièces, était la question du Heimat. Qu'est-ce que c'est d'avoir un chez-soi? Qu'est-ce que c'est le chez-soi? Un endroit familier, et la question du coup de l'exil aussi. Et dans Dina, en fait, encore une fois, effectivement, le chant était présent. Une scène où vous chantez en, en manteau blanc. Et il m'a semblé, en fait, alors moi j'ai trouvé une citation où j'ai beaucoup pensé à vous. Donc à ce que j'ai vu de Dina et aussi au filage d'acoustique plus vieux. Je vais vous la lire aussi à vous deux parce que il me semble que il y a une... enfin, elle m'a fait penser à vous deux. On a souvent souligné le rôle de la ritournelle. Elle est territoriale, c'est un agencement territorial. Les chants d'oiseaux, l'oiseau qui chante, marque ainsi son territoire. Les modes grecs, les rythmes hindous sont eux-mêmes territoriaux, provinciaux, régionaux. La ritournelle peut prendre d'autres fonctions, amoureuses, professionnelles ou sociales, liturgiques ou cosmiques. Elle emporte toujours de la terre avec soi. Elle a pour concomitant une terre, même spirituelle. Elle est en rapport essentiel avec un natal, un natif. Donc j'ai beaucoup pensé à vous aussi sur donc cette citation est de Deleuze où il parle beaucoup du rapport de la musique, de la sonorité et du rythme, où il dit aussi plus loin dans ce chapitre que la musique, la matière sonore en fait a un rapport particulier avec le peuple mais aussi avec le pouvoir, c'est-à-dire que la musique et le chant sont... Le pouvoir essaie toujours de les capter, puisque c'est une force qui vient mettre en mouvement le monde ou le peuple. Et là, je pensais aussi à ce qui était présenté sur votre question, si la voix peut changer le monde et comment, en fait, elle arrive dans le monde.
Et pour moi... notamment dans le spectacle précédent, comme Dahlia Bleu ou Dina, il y avait beaucoup de questions qui partaient de ma vie, de mon vécu. Je me sens toujours étrangère où je suis. Au départ, pendant les premières années de travail en France, j'adorais ce côté anonyme, d'être vraiment étrangère, de pas tout comprendre, pas toujours être compris. C'était une manière d'être ou de pas être, justement, parfois à la fois. Et c'est vrai qu'avec les années qui passaient, il y a quelque chose qui commençait à me manquer peut-être. Et surtout, ce qui commençait d'être de plus en plus difficile, c'est... le fait que je ne vais pas, comme si je m'admets pas à moi-même que je vis ici. Il y a quelque chose comme un arbre, comme une plante un peu déracinée qui devient peut-être faible à cause de ça. Enfin, il y a un truc qui, une chose qui était. Du coup, je suis partie sur effectivement Heimat, sur le chez-soi réel, le chez-soi aussi qu'on peut même porter avec nous ailleurs, donc spirituel, comme était dit. Mais pour cette pièce-là, Acoustic Pleasure, j'ai décidé un peu de quitter ma vie personnelle à moi, d'essayer de vraiment chercher, de vraiment tenir à d'autres figures, à des figures assez fortes. Comme les oiseaux, comme les sirènes, pour justement l'amener aussi cette proposition vers quelque chose de pareil, plus universel et plus... Ouais.
Alors, on va y venir à cette figure de la sirène. Mais avant, bien souvent, avant d'ouvrir un nouveau chantier, les danseurs s'interrogent sur la nécessité de la danse. Finalement, cette question toujours, mais pourquoi danser ? Et cette question, elle semble présente dans ce spectacle. En fait, pas de manière frontale, mais d'ailleurs, elle n'est pas posée comme telle. Cependant, elle semble être là de manière indirecte par la projection d'une danse de Yehudit Arnon. Alors, j'aimerais que vous me parliez de ce rapport qui est cette danseuse qu'on voit sur un écran vidéo, Yehudit Arnon, qui est-elle pour vous ? Et comment se joue votre rapport à la danse à travers cette danse ?
Yehudit... Yehudit est une grande figure pour moi, une grande personne, une grande dame. Yehudit, par la danse, par le geste de Yehudit, on a l'impression que c'est comme si, en quelque sorte comme si elle donnait la possibilité de danser aujourd'hui. Quelque part, elle avec son... par rapport à ce qu'elle a traversé aussi dans sa vie, en étant dans des camps de concentration pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, elle était petite, elle a perdu ses parents, elle était séparée de son frère. Et la confronter, voilà, ces atrocités. Un geste simple, qui a l'air simple de Yehudit pour moi, toute l'histoire est là, toute l'histoire peut-être d'elle, toute l'histoire de la danse, toute l'histoire de l'humain aussi. Ce film a été donné aussi dans le solo d'Ina et en fait c'est la troisième fois que ce solo est donné dans une pièce et c'est la première fois où il y a de la parole pendant sa danse, pendant son solo et j'ai choisi de dire les litanies de Satan, le texte de litanie de Satan de Baudelaire. Pour moi, parlons un peu de Satan. Parlons de l'homme. Et en fait, Satan, c'est un tabou. Satan, c'est bon, il n'existe pas, il existe. Il y a beaucoup, enfin moi j'avais beaucoup de réticences avant de rien qu'à dire le mot Satan. Ouais. Aujourd'hui je trouve que voilà, qu'on peut tous devenir Satan en même temps, on a tous du mal en nous. Et je trouvais que cohabiter ce texte de Baudelaire avec le solo de Yehudit est quelque chose qui en fait peut-être quelque part parlait de la même chose, parlait de la présence.
Vous disiez que le solo de cette vidéo de Yehudit était présente précédemment dans les deux derniers spectacles. Est-ce que ça veut dire aussi que pour vous, pour pouvoir danser, il vous faut retrouver ces gestes simples de Yehudit, les sentir proches, présents ?
Pas forcément. Je peux aussi m'éloigner. Pour moi, quand même, j'ai l'impression d'abord, ça c'est vrai, que je demandais à Yehudit de danser, de faire une apparition, de danser sur scène avec nous pour Dahlia Bleu. Et comme elle est plutôt âgée, elle ne se tient pas bien debout, elle a besoin toujours de tenir quelque chose, on a décidé qu'elle ne va pas danser, mais sa danse va être filmée, projetée sur scène. À la taille réelle d'elle, comme si elle était là avec nous. Et quelque part, quelque part, elle dansait pour moi. Elle donnait cette danse à cette pièce, Dahlia Bleu. Et ce cadeau-là, cette chose précieuse, en tout cas là, comme les débuts d'Acoustic Pleasure devraient être quand même une reprise de Dina. Et la seule chose que je voulais, puisque beaucoup de temps a passé sans que je joue ce solo, la seule chose qui était évidente que j'ai envie de garder, c'était son solo. Et parce que pour moi, oui, trop précieux. Trop précieux, peut-être pas assez vu aussi. J'arrivais pas à dire, bon, allez, je passe ailleurs et le solo, c'est, on le met dans le tiroir. Et je pense que ce solo doit être vu par beaucoup d'autres personnes, quitte à ce que même il est pris seul pour être projeté ailleurs ou dans d'autres moments, en dehors de pièces que moi j'ai fait, même si l'origine était là.
Pour aborder la question des sirènes, nous avons trouvé un texte où pour Blanchot, si le chant de la sirène est envoûtant, c'est qu'il est lié à la promesse d'un chant à venir, et qu'il attire et qu'il emporte vers cet espace où chanter commencerait vraiment, en définitive. Alors le chant de la sirène serait donc un mouvement vers le chant. Et dans votre performance, il semblerait que le chant est mouvement vers la danse. Notamment vers cette scène finale où se dessinent sous nos yeux des formes en mouvement renvoyant à certains tableaux de Matisse. Certains tableaux de Matisse, celui-ci comme les danseurs, la femme nue ou car. Et je me souviens, lors des premières répétitions que vous aviez fait cet été, la scène du tableau, on commençait par la scène du tableau, et que désormais elle arrive à la fin, et qu'on a le sentiment que c'est passé par le chant comme mouvement pour arriver à cette scène-là, qu'il fallait faire ce détour, passer par ce moment-là de la voix, pour pouvoir s'attaquer en tout cas à ces formes-là, légères, simples, et qui retrouve la légèreté, la simplicité de l'écran et des mouvements de Judith.
Oui, c'est possible. C'est vrai que pendant un moment, on a répété avec tous les gestes de dessin sur le tableau au début de la pièce, et puis dans une deuxième phase de répétition, ça arrivait parfois au milieu. C'est vrai que là, quand ça arrive à la fin, c'est vraiment une... Pour moi, c'est une sorte de... Oui, là où il n'y a plus de paroles, peut-être. Là où tout se calme. Là où la musique devient une couche presque brumeuse et audible, mais il faut quand même un peu tendre l'oreille pour l'entendre. Enfin, quelque chose de plutôt fin. Là, quand ça arrive à la fin de la pièce, c'est quelque chose, en fait... j'aime beaucoup ce qu'il dit Peter Brook pour construire un personnage sur scène, c'est pas en mettant des briques pour avoir une figure, mais c'est au contraire, c'est enlever, retrouver l'essentiel, peut-être la chose le plus fin et le plus vrai, le plus juste qu'on peut trouver dans le personnage ou dans la figure. Et c'est vrai qu'arrivant comme ça à la fin maintenant avec les dessins, il y a quelque chose de... d'abord, l'acré sur un tableau en bois, il y a quelque chose de... Moi, je le vis plutôt comme quelque chose... pas pur, mais quelque chose de... ces lignes, cette chose simple, en fait, et qui sont données à la fin, avec ce qui fait aussi Pascal à la fin... C'est quelque chose... Et en même temps, on a la sensation, en tout cas à l'intérieur, que tout peut recommencer. Que finalement, cette fin est un début peut-être pour une suite, une deuxième partie, je ne sais pas, 10 minutes d'autre chose. Et finalement, comme on prend le temps de vivre ces moments-là, on dit maintenant, en fait, ce n'est pas la fin. Ça peut se terminer comme ça, évidemment, mais ça pourrait complètement déclencher autre chose par la suite.
C'est vrai que sur ce moment où il n'y aurait peut-être plus de voix, ou apparaît le silence, vous, loin des clichés de la sirène, vous tentez d'habiter la profondeur de son chant, la sirène. Aussi, par exemple, par un jeu de lumière, nous sommes troublés par une défiguration du visage, creusant en lieu et place de vos yeux deux trous noirs. Renvoyant d'ailleurs à un tableau de Munch, je pense à celui-ci, qui s'appelle La Voix. C'est très étrange que ce tableau d'une femme peinte et en juste deux yeux, deux trous noirs à la place des yeux, a pour titre La Voix, comme un effacement du corps, comme si, n'ayant plus deux yeux, c'était tout le corps qui s'évadait et qui ne restait plus que la voix. Aussi, la voix, c'est déjà un retrait du corps. Et c'est ici, pour nous, spectateurs, un point d'aveuglement, ces deux trous noirs. Une présence inaccessible aussi. Nous attirant vers des gouffres insondables, vers l'intériorité du chant, à sa source, là où justement le chant se ferait plus entendre. Il y a quelque chose dans ce premier chant d'aller vers un moment où le chant se ferait plus entendre. Alors je ne sais pas si ça c'est quelque chose que vous avez travaillé à la fois dans cette matérialité du chant, trouver cette présence, cette aspiration, et musicalement cette montée pour aller, parce qu'après ce qui suit c'est la vidéo et c'est un moment où on retombe dans une sorte de silence, on tombe justement, plutôt que retomber, on tombe dans une sorte de silence.
La première chanson était fortement inspirée de Diamanda Galas, dont les paroles, c'est en fait une chanson qui s'appelle Gloomy Sunday, on comprend à la fin de la chanson que la personne en fait qui donne ce texte est morte. Donc il y avait tout cet aspect de est-ce que les sirènes attirent les hommes vers la mort, ou est-ce qu'il attire les hommes, comme dit Blanchot, vers une promesse, cette promesse énigmatique, en fait, pour peut-être un meilleur monde, une meilleure vie, ou est-ce qu'il les attire vers l'inconscient, vers tout ce que l'homme ne sait pas, tout ce que l'homme ne connaît pas. Tout ce côté hybride aussi entre l'animal et l'humain, la fin séductrice, mais en même temps le profondeur, la mort qui est très présente, c'est quelque chose qui me réjouit profondément, parce que c'est la première fois que je suis dans une création où j'ai à me confronter, à dealer avec des figures mythiques et à prononcer Satan, à m'approcher un tout petit pas vers la mort sans avoir peur. Bon, c'est pas encore fait, j'ai toujours une grande réticence et peur de la mort évidemment, mais j'ai toute cette chose un petit peu tabou, un peu, en tout cas je ne touche pas parce que ça me fait trop mal, toutes ces choses là à travers la création devenu un peu plus accessible, et je sens comme si je faisais un pas vers une, j'ai un certain calme qui est arrivé par rapport à cette immense chose pour moi dans la vie, dans la mort, et ça c'est oui, c'est grâce aux sirènes.
Oh toi, le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé des louanges. Ô Satan, prends pitié de ma langue misère. Ô prince de l'exil à qui l'on a fait tort, et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, même aux lépreux, ô pariasse maudit, enseigne par l'amour le goût du paradis. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère.
Alors si, si la sirène ne nous amène pas forcément vers un monde meilleur, ni forcément vers la mort, mais en tout cas vers un rivage, qui est le rivage à la fois de transporter vers Judith, et à la fois nous amène dans les profondeurs d'où émerge la voix des litanies de Satan. Une voix d'ailleurs, parce que dans ce spectacle, il n'y a pas qu'une voix, hein, il y a plusieurs voix. La voix est sans cesse modulée. Les litanies de Satan, on a une voix d'acier, dans métallique. Dans la première chanson, on a une voix plus grave, plus rauqueuse peut-être. Et puis il y a aussi le pendant, litanie de Satan, qui est à un moment donné, là aussi on retrouverait Blanchot qui nous dit que la voix de la sirène, elle est soit une voix narrative, soit une voix pour dire l'inqualifiable. Et sur Satan, l'inqualifiable, ou sur le narratif, et aussi quelque chose de l'inqualifiable, par rapport à un texte d'Adriana Cavarero, je crois, qui est un texte post-féministe. Donc, on retrouve un pendant de la révolte par rapport à Satan. Et là aussi, on a une autre voix, un autre ton.
Une langue aussi.
Une autre langue aussi, en anglais, par exemple. Et là, on est en plein dans la matière sonore, par exemple, entre la voix qui ne cesse de moduler. Quoi.
Dès le début, on a eu cette envie de d'aller vers l'étrange, quoi, vers le mystérieux. Forcément, enfin, ce sujet appelle ça, quoi. Donc je crois que tu as eu envie très très rapidement de ça, effectivement, d'avoir cette voix aux multiples facettes. Ça m'a paru très 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 évident qu'il fallait de toute façon aller ailleurs que les autres endroits qu'on avait pu fréquenter dans d'autres spectacles, quoi.
Oui, donc la voix de la sirène, comme je disais tout à l'heure, c'est d'un côté, c'est peut-être la femme, c'est aussi la séductrice, c'est aussi la maman, tout, c'est-à-dire que comme on a commencé à se questionner c'est quoi la voix vraiment de la sirène, est-ce qu'on peut la trouver, on a assez vite essayé découvrir d'autres endroits. Je me souviens le jour où on est venu répéter avec Pascal au studio, et puis je lui ai dit mais est-ce que comme tu joues, comme tu fais tout ce que tu fais dans la musique, mais est-ce que c'est une sirène pour toi? Puis il m'a dit, ça je ne sais pas, mais je pense que si c'était un autre sujet, j'aurais fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a essayé tous les deux de trouver chacun, pas forcément sa sirène, mais de rentrer dans l'univers de tout ce qu'on vient de dire, de chacun trouver sa voix vraiment à contribuer. Et effectivement, depuis le début, je me suis dit, c'est vraiment possible d'y aller vers tout ce qui est un peu fantastique, tout ce qui est étrange, tout ce qui est de de chercher d'autres voies qu'on a en nous. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est nous-mêmes quand même. Mais, mais c'est des choses que, qui étaient attirées par ce sujet. Enfin, le sujet nous permettait d'aller trouver de, peut-être de sons ou des vibrations que peut-être j'aurais pas trouvées autrement.
Cherchez-vous pas à finalement à désenclaver la voix du corps et désenclaver le corps de la voix?
C'est quoi désenclaver?
Retirer.
De retirer de
la voix du corps et le corps de la voix. C'est-à-dire un corps sans voix qui serait visible uniquement par ses formes plus simples, son contour. Et une voix enfouie dans des profondeurs terrestres, mais en extériorité du corps, se servant uniquement de lui comme médium, en fait.
Oui, oui, très. C'est un rêve, ça. c'est sûr que, comme on parle des sirènes, d'abord, première réflexion, c'était. Faisons attention à ce qu'on veut faire, parce que c'est pas rien de travailler sur un sujet aussi fort, aussi grand, grand que ça. C'est sûr que, j'ai l'impression que le plus on plongera dans cet univers, le plus on va trouver des choses peut-être aussi subtiles malgré tout, parce que. Subtil dans le sens la difficulté de ne pas avoir la voix trop collée au corps, en tout cas à l'image, en ce qu'on voit, mais de trouver vraiment des moments où la voix est en avant, la voix c'est aussi la musique, ou avoir des moments où ce corps est là, comme toute une danse dont je fais par terre avec des jambes. Et où là, par exemple, la voix disparaît effectivement. Ça reste quand même une langue, que ce soit la voix ou la danse, c'est des langages. Donc, quoi est-ce que ça doit cohabiter et quoi est-ce que ça doit habiter la même chose? Parce que ça aussi, c'est une question. Le corps, il est peut-être toujours habité quelque part, mais est-ce que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça doit toujours être accordé? Voilà, ça c'est des questions très intéressantes qu'on est en train de traverser.
On a vraiment eu ce sentiment d'un corps qui ventriloque la voix. Ça c'est quelque chose d'habité et qui la ventriloque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui sert une voix mais est venue d'ailleurs. C'est très quelque chose qu'on ressent de manière assez forte, un désajustement, une inadéquation parfois entre le corps. Et la voix.
Qu'on pouvait aussi, qu'on pressentait aussi déjà dans Dina, parce que la pièce, elle commençait avec une lecture de textes sacrés, qui sont des textes qui édictent le comportement à avoir pour une femme. Ce qui était très intéressant, c'est que le corps semblait réagir au texte, mais comme deux matières. Qui arrivait, c'est-à-dire il y avait la présence d'un texte, donc qui est élu, on voit le porter, donc était comme ventriloqué, habité par une autre présence, et en même temps donc le corps semblait réagir par rapport à cette présence, et puis jusqu'à exploser pour prendre l'espace. Et c'est vrai que votre danse semble souvent réagir aux éléments, c'est-à-dire que votre présence se fait, alors bien sûr la danse et l'espace etc, mais on a l'impression que vraiment l'espace est chargé de petites molécules et que le corps répond à des ondes qui le traversent ou pousse des choses en fait, et toujours dans un rapport à fabriquer une espace quoi, être traversé par lui et à le traverser.
C'est vrai que vous avez une capacité à matérialiser l'espace sans qu'il y ait besoin de le matérialiser par des objets. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu ressentir dans votre danse à travers les différents spectacles où on a pu vous voir danser une présence qui charge, comme dirait Suzanne Burge, l'espace. Et qui a une capacité comme s'il rendait visibles les ions, les molécules, et qu'il les rendait d'un seul coup visibles dans leur matérialité. C'est quelque chose de très étonnant, parce que je me souviens aussi que sur les répétitions, le filage, par exemple, le filage avait été fait en deux fois, où il avait été coupé pour des raisons, qu'il y avait un fil qui fallait faire un raccord. Et vous aviez une capacité à sortir, alors que ça demande une d'être dedans, hein, de manière, on est dans les profondeurs, une capacité à ressurgir à la surface et re-rentrer au même niveau de profondeur où vous étiez en très peu de temps. Ça, c'est très étonnant pour nous, en fait, de l'extérieur, de sentir cette présence, de voir quasiment ces électrons sous nos yeux, de sentir cette matérialité de l'espace de par votre présence.
Oui, je pense que une chose que je peux vivre pendant le moment où je danse, où je suis sur scène, c'est une sorte d'urgence. C'est-à-dire, je ne suis jamais tranquille, même comme c'est des choses minimalistes, des choses plus douces. Mais il y a une sorte d'urgence, une sorte une certaine tension aussi, si vous parlez de l'espace qui pourrait être presque poussé par des gestes ou par simple présence, je me sens responsable aussi de ce qui m'entoure. Ça fait un pour moi. Je me déplace jamais dans le vide. Quelque part, j'ai toujours effectivement quelque chose à chasser, entre guillemets, pour aller d'un endroit à l'autre, par exemple. En faisant un geste, c'est quelque chose que je dois bouger, forcément, parce que sinon, ça va être vide. Sinon, les mouvements seront sans sens, enfin, pour moi, sans force intérieure, sans sens. Donc, effectivement, il y a quelque chose de résistant, de... Et puis, je pense que c'est pas une urgence... C'est une urgence... peut-être parfois calme, c'est pas une urgence panique, évidemment, c'est quelque chose de tu dois être là et tu dois le défendre. Tu peux défendre plusieurs choses en même temps, plusieurs choses différentes dans différentes pièces, mais tu es là pour défendre quelque chose. Et si je crois quelque chose, ben voilà, je le défends peut-être pas à moitié. D'où peut-être aussi une complicité avec Pascal de rentrer dans la matière, de voir. On a regardé plus d'une fois la vidéo de Judith Arnon ensemble sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et, Et Pascal a réagi, j'étais assez, enfin même très contente de la première action de Pascal en voyant la vidéo de Judith. C'était, mais c'est super motivant de travailler avec un vidéo comme ça dans la pièce, par exemple. Il était très...
Et justement, Pascal, par rapport à ce qu'on disait, cette présence qui rend physique l'espace, est-ce que toi, qui as un travail de production de son, et finalement d'ajouter de la matière à cet espace, il n'y a pas une résistance qui se joue, c'est-à-dire à envoyer de la matière dans l'espace et étaler aussi la bloquer cette matière, en tout cas la repousser. On a le sentiment parfois que le son est... Peut-être que là, ce serait halluciné, mais on a le sentiment que parfois, il y a le son vient dans l'impact entre sa propulsion dans l'espace et parfois le moment où il rencontre Tal. Vraiment, ça, c'est assez étonnant, quoi.
J'aime bien toutes ces images que vous avez sur les molécules et tout ça, parce qu'effectivement, j'ai l'impression d'en envoyer, quoi. Enfin, d'avoir ce rôle-là, puis effectivement ces images-là. Avant tout, je trouve l'espace effectivement qui est peuplé de très peu d'objets, en fait, très intéressant pour ça, quoi. Enfin, il y a quand même ce tableau noir au fond qui est là, surtout à la fin. Il y a l'écran pour le film de Judith. Du coup, moi, je fonctionne beaucoup par image, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a effectivement parfois, avec Tal, quelque chose qui est un peu de l'ordre du conflit. On a cet espace à remplir et donc ça balance des molécules à gauche, à droite, tout ça. Parfois, il y en a qui s'entrechoquent et puis ça éclate. Par moment, c'est elle qui, entre guillemets, gagne. Et du coup, elle fait sa danse par terre et tout ça. Mais moi, je lui rappelle qu'elle a quand même une voix qui doit sortir aussi à un moment donné. Donc, je diffuse des voix que j'amène petit à petit, tout ça. Je ne sais pas si ça te dérange, ça, de parler de conflit entre nous.
Non, c'est en fait, ce qui s'est passé...
J'ai l'impression, excuse-moi, que justement tout se résout effectivement à la fin, quoi. Qu'à la fin, Tal va dans cet espace qu'elle n'a pas encore occupé jusqu'ici, donc elle fait ses dessins. Et là, j'ai une impression effectivement de quiétude, de quelque chose de très, très paisible. Et je me sens bien avec elle à ce moment-là. Du coup, après, effectivement, ça peut repartir, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Mais moi, j'aimerais que ce moment-là dure encore des dizaines de minutes, quoi.
C'est vrai qu'on parlait à un moment donné, c'était pas dans le mythe avec Ulysse, mais c'était l'histoire avec Orphée, où Orphée sortait son... C'est pas une harpe, ou je sais plus quel instrument il avait. Et il était sur le bateau et puis il sortait son instrument. Il a commencé à jouer de plus en plus fort et il y avait une lutte entre les voix de sirène à ce moment-là et Orphée. Alors, je suis contente que je gagne parfois là parce que c'est vrai qu'il y a un instrument, surtout s'il est électrique, il est très fort. Et là aussi, Orphée a gagné les sirènes parce que... Elle, c'est la voix, et puis lui, c'est l'instrument. Donc, c'est vrai que c'est un conflit qui peut être intéressant. Mmh. Bon, il faut être vigilant que c'est... il faut le choisir. Il faut choisir les moments, il faut voir jusqu'où c'est intéressant. Et moi, je trouve que chaque... moi, les conflits, c'est vrai que d'un côté, je me baignais depuis toute petite, et c'est vrai que... Quelque part, ça peut être un outil qui pousse énormément chaque partie d'avancer, de trouver des solutions. Et c'est aussi quelque chose qui me fatigue pas mal. Je trouve que s'il y a une sorte de lutte, enfin deux directions qui se joignent, qui se cognent et puis tac, qu'est-ce qui est né de ça? Ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser beaucoup. Je pense que dans la pièce, on arrive à... par moment, justement, trouver cette lutte qu'Orphée a avec les sirènes Et puis parfois quelque chose qui complète, qui est vraiment ensemble, parce qu'en fait je me sens quand des jours qu'on n'est pas ensemble dans la répétition, pour moi c'est catastrophique. C'est que chacun de son côté, ça marche pour moi pas du tout. Donc il faut toujours être vigilant, être toujours malgré tout évidemment dans une extrême écoute à deux, pour que ça cohabite, qu'on peut cohabiter.
Je voudrais terminer sur revenir sur les tableaux de Matisse et ces danseurs de Matisse, les danseurs ou les danseuses, ou encore Icare. Est-ce que les personnages de Matisse sont comme allégés d'un poids? Ils semblent danser sur un nuage assez flagrant dans les danseuses, cette légèreté, cette absence de poids, ou en tout cas cette allégée de ce poids. Je voudrais également vous montrer un tableau qui s'appelle le tableau des cheveux bleus, parce que en fait ce tableau semble être le devenir de tous les autres tableaux. La forme, une forme complètement libre, prise au vent, quelque part désarticulé, ne reconnaissant ni plus si bien les pieds, des bras. Donc une sorte de justice semble être rendue au poids du corps. Et le corps, parfois, peut être un peu lourd à porter. On parlait de poids du corps, lourd à porter de par ses assignations. C'est-à-dire peut-être aussi cela que, et c'est peut-être aussi pour cela que les danseurs de Matisse sont nus, au sens où avoir un corps, par exemple, comme un corps de femme, c'est aussi se tenir comme une femme, ce serait en revêtir l'habit, aussi bien pour un corps d'homme, qui serait aussi se tenir comme un homme, revêtir son habit. Alors j'ai une question, est-ce que aller vers la danse, ce n'est pas aussi un dégagement du corps? Comme lorsqu'il se dégage du tableau pour y laisser son empreinte. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre rapport à la danse, il n'y a pas la nécessité toujours de le délester de quelque chose, de le dégager d'un poids ou de quelque chose pour lui trouver son juste poids qui le ferait un tout petit peu monter en hauteur? De lui enlever un poids qui peut-être parfois lui rendrait un peu trop solide, dur, terrestre, je ne sais pas comment dire.
Oui, effectivement, il y a un décalage entre mon corps et ce que je ressens pendant les dessins et ce qui reste sur le tableau. Comme j'improvise ces images, je tourne chaque fois pour voir qu'est-ce qui se passe, ce qui se figure, et c'est évidemment, je regarde autrement, ce n'est absolument plus mes contours, c'est quelque chose qui est complètement extérieur, enfin, à part, autonome. Et j'ai l'impression, comme beaucoup de choses peut-être dans la vie, que dans la danse, on travaille souvent sur les oppositions. Je pense que comme on doit traverser un moment très agité, très physique, qui semble violent, en tout cas de l'extérieur, il faut avoir un calme total à l'intérieur. Si tout est trop, c'est pas possible. On est saturé. Nous, on le faisons, et ceux qui nous regardent, c'est... Et à l'opposition, c'est dans des moments très calmes, et c'est pour ça, comme disait Amandine tout à l'heure, par rapport à la lecture de ces textes et qu'est-ce qui se passe dans les corps, cette opposition-là, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, parce que dans le moment calme, il faut peut-être le plus grand feu à l'intérieur, il faut vraiment être habité. Sinon, pareil, on est trop dans une direction, de nouveau, trop dans un vide ou dans un... tout est trop apaisé. Et du coup, il manque l'adresse, il manque l'énergie. Ces oppositions, effectivement, entre les corps dansés, la trace qu'il peut laisser et le poids réel, l'engagement réel dans le geste, dans le mouvement, c'est quelque chose qui est en permanence en question. En permanence, c'est d'essayer de faire le plus grand saut en atterrissant comme un tout petit plume, comme une plume, comme un chat. Comme... C'est toujours, je pense qu'il y a toujours cette recherche, mais petit à petit, peut-être avec les années, l'expérience, ça devient... On ne réfléchit plus, peut-être. Mais toutes ces questions, elles y sont pour moi, même dans un simple traversée de l'espace ou dans un geste. C'est quelque chose qui est toujours appel, ou aussi peut-être commence à être maintenant dans la voix, qu'elle devient une matière. Ce n'est plus un chant ou un texte dit, ça devient une matière. C'est qu'il y a toujours ces oppositions qui sont en permanence, comment dire... Oui, mais il y a une certaine électricité qui est permanente, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la peau. Mais il y a quelque chose qui est tout le temps en vibration, en alerte.
Oui, en alerte. Il les invite à
C'était un entretien avec Talbet Alarmi, chorégraphe, danseuse.
Day, as was planned, tie him even tighter.
Et Pascal Maupeux, musicien, guitariste, away, à propos de la pièce chorégraphique Acoustic Pleasure.
Could the deaf sailor have been commanded by the eye? Could a strong gesture from Odysseus have been enough to convince them to untie him?
Voilà, à bout de souffle. C'est une nouvelle fois terminé.
Commanding gesture from their captain.
Répétition. Un podcast.
The text does not say.
www.arteradio.com/a-bou.
As it gets sentiment and in the collective imaginary for centuries to come,
the episode of the sirens
make feminine song into something quite disturbing. Clearly, it is feminine song that is at stake. This is precisely why it is so disturbing. It is terrible, however, in a rather curious way. With... away, respect to the generic stereotypes that one finds in the Western tradition. Homer, in fact, wants the monstrous singer to be omnipresent, just like the muse.